Livre 3, chapitre 1. La nuit même de la fête, du 13 au 14 juillet, lorsque toute la population, dans l'abandon de l'enthousiasme et de la confiance, n'avait plus qu'une pensée, on profita de ce moment pour faire sortir de l'abbaye l'homme du dernier complot, l'agent des émigrés, Mone de Savardin, qui voulait les mettre dans Lyon et dont on craignait les aveux. En même temps, M. de Flashrandon, homme de confiance de la reine auprès du comte d'Artois, était envoyé par lui pour recevoir et complimenter à Nice Froment, échappé de Nîmes. Le 27, l'Assemblée apprit que le roi accordait aux Autrichiens le passage sur terre de France pour aller écraser la révolution de Belgique. Le même jour, date mémorable, le 27 juillet 1790, l'Europe fit son premier accord contre la révolution, contre celle de Brabant d'abord. Les préliminaires du traité furent signés à Reichenbach. L'Angleterre, la Prusse et la Hollande abandonnèrent à la vengeance de l'Autriche la Belgique qu'ils avaient soulevée, encouragée, qui n'espérait qu'en eux, qui s'obstina plus tard encore et jusqu'à sa dernière heure à attendre d'eux son salut. Le même mois, M. Pitt, sûr du concert européen, ne fit pas difficulté de dire en plein Parlement qu'il approuvait mot pour mot la diatribe de Burke contre la Révolution, contre la France. Livre infâme, insensé de rage, plein de calomnies, de basses insultes, de bouffonneries injurieuses, où il compare les Français aux galériens rompant la chaîne, foule aux pieds la Déclaration des droits de l'homme, la déchire et crache dessus. Dure, pénible découverte, ce que nous croyons amis sont nos plus cruels ennemis. Il est grand temps que nous sortions de nos illusions philanthropiques, de nos sympathies crédules. La Révolution ne peut, sous peine de périr, rester dans l'âge d'innocence. La vérité, dure ou non, il faut la voir face à face. Il nous faut l'envisager d'un ferme regard au dehors et au dedans. J'ai suivi la pauvre France, candide et crédule encore, dans l'entraînement trop facile de son cœur, dans ses aveuglements volontaires, involontaires. Je dois faire comme elle fit, en présence de ces dangers imprévus, fouiller plus profondément la réalité, sonder à la fois le péril et la ressource de la résistance. Le péril, il serait peu à craindre si la France n'était divisée. Il faut le dire, l'union fut sincère au sublime moment que j'ai eu le bonheur de peindre. Elle fut vraie, mais passagère. Mais bientôt, la division et de classe et d'opinion avaient reparu. Le 18 juillet déjà, 4 jours après la fête, si heureusement passée, lorsqu'on avait tant sujet de se confier au peuple, lorsqu'il eût fallu en maintenir, en fortifier l'union en présence du danger, Chapelier, quel changement pour le président du 4 août, Chapelier propose d'exiger l'uniforme de la garde nationale, c'est-à-dire de la limiter à la classe riche ou aisée, c'est-à-dire de préparer le désarmement des pauvres. La proposition, il faut le dire à l'honneur de ce temps, fut mal vue et mal reçue des riches mêmes, sauf la bourgeoisie de Paris et les gens de Lafayette. Barbaroux la blâma à Marseille. Le riche Bordeaux la repoussa et protesta que pour se reconnaître, on pouvait se contenter d'un ruban. Ces germes de division dans la garde nationale, les défiances qui s'élèvent contre les municipalités doivent multiplier, fortifier les associations volontaires. La fédération n'a pas suffi, l'institution des nouveaux pouvoirs n'a pas suffi. Il faut une force extra-légale. Contre la vaste conspiration qui se prépare, il faut une conspiration. Vienne celle des Jacobins et qu'elle enveloppe la France. 2400 sociétés dans autant de villes ou villages s'y rattachent en moins de 2 ans. Grande et terrible machine qui donne à la Révolution une incalculable force qui seule peut la sauver dans la ruine des pouvoirs publics. Mais aussi elle en modifie profondément le caractère. Elle en change, en altère la primitive inspiration. Cette inspiration fut toute de confiance et de bienveillance. Grandeur et crédulité, c'est le caractère du premier âge révolutionnaire qui a passé sans retour. Touchante histoire qu'on ne relira jamais sans larmes. Il s'y mêle à sourire amer. Quoi ? Nous étions donc si jeunes, tellement faciles à tromper ? Quoi ? Dupes à ce point ? N'importe, qu'on en rit si l'on veut, nous ne repentirons jamais d'avoir été cette nation confiante et clémente. J'ai lu bien les histoires de révolution. Et je puis affirmer ce qu'avouait un royaliste en 1791, c'est que jamais grande révolution n'avait coûté moins de sang, moins de larmes. Les désordres inséparables d'un tel bouleversement ont été grossis à plaisir, complaisamment exagérés, d'après les récits passionnés que nos ennemis recevaient, sollicités de tous ceux qui avaient souffert. En réalité, une seule classe, le clergé, pouvait avec quelque apparence se dire spolié. Et pourtant, il résultait de cette spoliation que la masse du clergé, affamés sous l'Ancien Régime au profit de quelques prélats, avaient enfin de quoi vivre. Les nobles avaient perdu leurs droits féodaux, mais dans beaucoup de provinces, spécialement en Languedoc, Il gagnait bien plus comme propriétaire à ne plus payer la dîme qu'il ne perdait comme seigneur en droits féodaux. Pour n'avoir plus les honneurs gothiques et ridicules des fiefs devenus un non-sens, il n'était pas descendu. Presque partout, avec une déférence aveugle, on leur avait donné les vrais honneurs du citoyen, dont la plupart n'étaient guère dignes. Les premières places des municipalités, les grades de la garde nationale. Confiance excessive, imprudente. Mais ce jeune monde en présence des perspectives infinies que lui ouvrait l'avenir marchandait peu avec le passé. Il lui demandait seulement de le laisser aller et vivre. La foi, l'espoir était immense. Ces millions d'hommes, hier serfs, aujourd'hui hommes et citoyens, évoqués en un même jour, d'un coup, de la mort à la vie, nous venaient de la Révolution, arrivés avec une plénitude inouïe de force, de bonne volonté, de confiance, croyant volontiers l'incroyable. Eux-mêmes qu'étaient-ils, un miracle. Mais vers avril 89, hommes au 14 juillet, hommes armés surgis du sillon, tous, aujourd'hui ou demain, hommes publics, magistrats, 1300 000 magistrats. Et tout à l'heure propriétaires, le paysan touchant presque son rêve, son paradis, la propriété. La terre triste et stérile hier sous les vieilles mains des prêtres, passant aux mains chaudes et fortes de ce jeune laboureur. Espoir, amour, année bénie. Au milieu des fédérations, allait se multipliant la fédération naturelle, le mariage. Serment civique, serment d'hymen se faisaient ensemble à l'autel. Les mariages, chose inouïe, furent plus nombreux d'un cinquième en cette belle année d'espérance. Ah, ce grand mouvement des cœurs promettait encore autre chose, une bien autre fécondité. Fécond en homme, fécond en loi, ce mariage moral des âmes et des volontés faisait attendre un dogme nouveau, une toute jeune et puissante idée sociale et religieuse. Rien qu'à voir le chant de la fédération, tout le monde aurait juré que de ce moment sublime, de tant de vœux purs et sincères, de tant de larmes mêlées à la chaleur concentrée de tant de flammes en une flamme, il allait surgir un dieu. Tous le voyaient, tous le sentaient. Les hommes les moins amis de la Révolution tressaillirent à ce moment. Ils sentirent qu'une grande chose advenait. Nos sauvages paysans du Maine et des marches de Bretagne, qu'un fanatisme perfide allait tourner contre nous, vinrent eux-mêmes alors, émus, attendris, s'unir à nos fédérations et baiser l'autel du Dieu inconnu. Rare moment où peut naître un monde, heure choisie, divine, et qui dira comment une autre peut revenir, qui se chargera d'expliquer ce mystère profond qui fait naître un homme, un peuple, un Dieu nouveau. La conception, l'instant unique, rapide et terrible, si rapide et si préparé. Il y faut le concours de tant de forces diverses qui, du fond des âges, de la variété infinie des existences, viennent ensemble pour ce seul instant. Un fait a été remarqué, c'est que la France, comme une femme qui se prépare à un grand enfantement, avait, outre la génération révolutionnaire, sacrifié à l'action une autre génération en réserve, plus féconde et plus inventive, celle des hommes qui eurent 20 ans, ou un peu plus en 90. Il y avait eu là un flot incroyable de puissance et de génie. Deux années, 1768-1769, avaient produit tout à la fois Bonaparte, Hoche, Marceau et Joubert, Cuvier et Chateaubriand, les deux Fourier. Saint-Martin, Saint-Simon, Demestre, Bonald et Madame de Staël naissent un peu avant, ainsi que Méhul, Le Sueur et les Chéniers. Un peu après, Geoffroy Saint-Hilaire, Bichat, Ampère, Sénancourt. Quelle merveilleuse couronne pour la France de la Fédération, que ces hommes de 20 ans que personne ne connaît encore. Qui ne serait terrifié en lui voyant briller au front ces diamants magiques qui étincellent dans l'ombre? Nul doute que, dans cette foule immense, elle en ait eu bien d'autres que ceux-là. Eux seuls grandirent, vécurent. Mais la chaleur vitale du merveilleux orage n'avait pas fait seulement, croyez-le bien, éclore ces quelques hommes. Des millions en acquirent, pleins de la flamme du ciel. Le dirais-je même? La magnanimité, la beauté héroïque qui fut dans tout un peuple à ce moment sacré, faisait attendre des génies qui en sortirent une autre inspiration. Si vous mettez à part quelques-uns, peu nombreux, qui furent des héros de bonté, vous trouverez que les autres, hommes d'action, d'invention et de calcul, dominés par l'ascendant des sciences physiques et mécaniques, poussèrent violemment au résultat. Une force immense, mais trop souvent aride, fut concentrée dans leur tête puissante. Aucun d'eux n'eut ce flot du cœur, cette source d'eau vive où s'abreuvent les nations. Ah, qu'il y avait bien plus dans le peuple de la Fédération qu'en Cuvier, Fourier, Bonaparte. Il y avait en ce peuple l'âme immense de la Révolution, sous ses deux formes et ses deux âges. Au premier âge, qui fut une réparation aux longues injures du genre humain, un élan de justice, la Révolution formula en loi la philosophie du XVIIIe siècle. Au second âge, qui viendra tôt ou tard, elle sortira des formules, trouvera sa loi religieuse, où toute loi politique se fonde, et dans cette liberté divine que donne seule l'excellence du cœur, elle portera un fruit inconnu de bonté, de fraternité. Voilà la finie morale qui couvait dans ce peuple. Et qu'est-ce auprès que tout génie mortel? Quand le 14 juillet à midi, il leva la main. Ce jour-là, tout était possible. Toute division avait cessé. Il n'y avait ni noblesse, ni bourgeoisie, ni peuple. L'avenir fut présent. C'est-à-dire plus de temps. Un éclair de l'éternité. Il ne tenait à rien, ce semble, que l'âge social et religieux de la Révolution, qui recule encore devant nous, ne se réalisa. Si l'héroïque bonté de ce moment eût pu se soutenir, le genre humain gagnait un siècle ou davantage. Il se trouvait avoir, d'un bond, franchi un monde de douleur. Un tel état dure-t-il? Était-il bien possible que les barrières sociales abaissées ce jour-là furent laissées à terre, que la confiance subsistât entre les hommes de classe, d'intérêt, d'opinions diverses? Difficile à coup sûr. Moins difficile pourtant qu'à nulle époque de l'histoire du monde. Des instincts magnanimes avaient éclaté dans toutes les classes qui simplifiaient tout. Des nœuds insolubles avant et après se résolvaient alors d'eux-mêmes. Telle défiance, raisonnable peut-être au début de la Révolution, l'était peu à un tel moment. L'impossible d'octobre se trouvait possible en juillet. Par exemple, on avait pu craindre en octobre 89 que la masse des électeurs de campagne ne servît l'aristocratie. Cette crainte ne pouvait subsister en juillet 90. Presque partout, le paysan suivait, autant que les populations urbaines, l'élan de la Révolution. Le prolétariat des villes, qui fait l'énorme obstacle d'aujourd'hui, existait à peine alors, sauf à Paris et quelques grandes villes où les affamés venaient se concentrer. Il ne faut pas placer en ce temps, ni voir 30 ans avant leur naissance, les millions d'ouvriers nés depuis 1815. Donc, en réalité, l'obstacle était minime entre la bourgeoisie et le peuple. La première pouvait, devait sans crainte, se jeter dans les bras de l'autre. Cette bourgeoisie, imbue de Voltaire et Rousseau, était plus amie de l'humanité, plus désintéressée et généreuse que celle qu'a faite l'industrialisme, mais elle était timide. Les mœurs, les caractères, formés sous ce déplorable ancien régime, étaient nécessairement faibles. La bourgeoisie trembla devant la révolution qu'elle avait faite. Elle recula devant son œuvre, la peur l'égara, la perdit, bien plus encore que l'intérêt. Il ne fallait pas sottement se laisser prendre au vertige des foules, ne pas s'effrayer et reculer devant cet océan qu'on avait soulevé. Il fallait s'y plonger. L'illusion d'effroi disparaissait alors. Un océan de loin, des lames dangereuses, une vague grondante, de près, des hommes et des amis, des frères qui vous tendaient les bras. On ne sait pas combien à cette époque subsistait dans le peuple d'anciennes habitudes de déférence, de croyance, de confiance facile aux classes cultivées. Il voyait parmi eux, à ce premier moment, ses orateurs, ses avocats, tous les champions de sa cause. Il avançait vers elle d'un grand cœur, mais elles reculèrent. Ne généralisons pas toutefois légèrement. Une partie infiniment nombreuse de la bourgeoisie, loin de reculer comme l'autre, loin d'opposer à la révolution une malveillante inertie, s'y donna, s'y précipita d'un même mouvement que le peuple. Nos patriotiques assemblées de la législative, de la convention, montagnards, girondins, n'importe, sans distinction de parti, appartenaient entièrement à la classe bourgeoise. Ajoutez-y encore les sociétés patriotiques dans leur commencement, spécialement les jacobins. Ceux de Paris, dont nous avons les listes, ne paraissent pas avoir admis un seul homme des classes illettrées avant 93. Cette masse de bourgeoisie révolutionnaire, gens de lettres, journalistes, artistes, avocats, médecins, prêtres, etc., s'accrut immensément des bourgeois qui acquirent des biens nationaux. Mais, quoiqu'une partie si considérable de la bourgeoisie entrât dans la Révolution, par dévouement ou par intérêt, la primitive inspiration révolutionnaire fut modifiée sensiblement en eux par les nécessités de la grande lutte qu'ils eurent à soutenir, par la furieuse âpreté du combat, par l'irritation des obstacles, l'ulcération des inimitiés. En sorte que, pendant qu'une partie de la bourgeoisie fut corrompue par l'égoïsme et la peur, l'autre fut effarouchée par la haine, et comme dénaturée, transportée hors de tout sentiment humain. Le peuple, violent sans doute et furieux, mais n'étant point systématiquement haineux, sortit bien moins de la nature. Deux faiblesses, la haine et la peur. Il fallait, chose rare, difficile, impossible peut-être dans ces terribles circonstances, il fallait rester fort afin de rester bon. Tous avaient aimé certainement le 14 juillet. Il eût fallu aimer le lendemain. Il eût fallu que la partie timide de la bourgeoisie se souvînt mieux de ses pensées humaines, de ses vœux philanthropiques. Qu'elle y persista au jour du péril, qu'effrayée ou non, Elle fit comme on fait en mer, qu'elle se remit à Dieu, qu'elle jura de suivre la foi nouvelle en tous les genres de sacrifices qu'elle imposerait pour sauver le peuple. Il eût fallu encore que la partie hardie et révolutionnaire de la bourgeoisie, au milieu du danger, en plein combat, gardât son cœur plus haut, qu'elle ne se laissât point ébranler, rabaissée de son sublime élan au bas-fond de la haine. Ah, qu'il est difficile aux plus forts même qui combattent de dominer leur combat d'un cœur ferme et serein, de combattre du bras et de garder en eux l'héroïsme de paix. La révolution fit beaucoup, mais si elle eût pu tenir un moment du moins à cette hauteur, que n'eût-elle pas fait? D'abord, elle eût duré. Elle n'aurait pas eu la triste chute de 1800, où les âmes, stérilisées ou de peur ou de haine, devinrent pour longtemps infécondes. Et puis, elle n'eût pas été écrite seulement, mais appliquée. Des abstractions politiques, elle fut descendue aux réalités sociales. Le sentiment de bonté courageuse qui fut son point de départ et son premier élan ne serait pas resté flottant à l'état de vague sentiment de généralité. Il aurait été à la fois s'étendant et se précisant, voulant entrer partout, pénétrant les lois de détail, allant jusqu'aux mœurs même et jusqu'aux actions les plus libres, circulant dans les ramifications les plus lointaines de la vie. Partie de la pensée et revenant à elle après avoir traversé la sphère de l'action, ce sentiment sympathique d'amour des hommes amenait de lui-même la rénovation religieuse. Quand l'âme humaine suit ainsi sa nature, quand elle reste bienveillante, quand absente de son égoïsme elle va cherchant sérieusement le remède aux douleurs des hommes, alors, par-delà la loi et les mœurs, là où toute puissance finit, l'imagination et la sympathie ne finissent pas. L'âme les suit et veut encore le bien. Elle descend en elle, elle devient profonde. Ceci est tout autre chose que la profondeur de l'esprit et l'invention scientifique. C'est une profondeur de tendresse et de volonté bien autrement féconde qui donne un fruit vivant. Étrange incubation, d'autant plus divine qu'elle est plus naturelle. D'une douce chaleur, sans effort et sans art, parfois du cœur des simples, éclot le nouveau génie, la consolation nouvelle qu'attend le monde. Sous quelle forme? Diverses sont les lieux, les temps. Que cette âme tendre et puissante réside dans un individu, qu'elle s'étende dans un peuple, qu'elle soit un homme, une parole vivante, un livre, une parole écrite, il n'importe, elle est toujours Dieu.